deux, oui, voilà, deux postes.
Deux, trois bornes.
Il faudra savoir où les mettre aussi, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas mettre ça
en commission. En commission de travail.
Oui, juste un compliment. Je regarde les chiffres un peu plus détaillés puisque j'ai pas pu être présent.
Il y a beaucoup de chiffres.
Voilà, j'ai pas pu être présent. Mais enfin, je veux dire, le budget pluriannuel a été construit avec une stabilité des taux.
D'augmentation.
Non, au niveau des taux d'imposition, ah oui, stabilité.
Je crois que j'ai mis par 1,5% d'augmentation des.
Augmentation moyenne, voilà. Relatif à l'augmentation de la base, plus...
Voilà. Mais je n'ai pas augmenté le taux, non pas du tout.
D'accord, ok. Donc il y aura sans doute une petite marge de manœuvre de ce côté-là.
Mais bien sûr, bien sûr.
Voilà, ok. Non, mais c'était juste par rapport au fait que l'épargne nette chute de façon importante. Il y aura peut-être un petit rééquilibrage à faire.
Mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas fait ça de façon optimiste. Hein. Tu le sais que je travaille comme ça. Hein. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Je préfère avoir des bonnes surprises à la fin que des mauvaises. Voilà, mais en fait, ça a l'avantage d'exister, on pourra y retravailler. Hein. C'est quand même quelque chose que vous me demandiez aussi, hein. Donc voilà, j'ai voulu répondre à votre attente. C'est beaucoup de travail, hein, par contre, hein, ça prend du temps. Hein. Alors, maintenant qu'on est arrivé au bout, eh bien, on va passer au vote. Alors, ce que je vous propose, parce que on peut le faire, on peut voter. Par total. On n'est pas obligé de voter et de dire chaque fois même vote, c'est tout à fait autorisé, hein, je l'ai vu. Donc ce que je vous propose, bon, je liste, et puis on vote une fois les charges, une fois les dépenses. Vous êtes d'accord ?
En tout cas, nous, on n'a pas l'intention
de voter différemment en fonction des chapitres, donc il n'y a aucun problème.
Donc on peut faire comme ça. Vous non plus ? Allez, on y va. Alors, donc, pour le budget de... J'y arrive. Voilà. Pour le budget de fonctionnement, donc, on est à un total de 5 941 448 qui correspondent donc aux charges à caractère général 850-470, charges de personnel 1 541 370, atténuation de produits 738-242, virement à la section d'investissement 2 406 340, opération d'or 134-876, charges de gestion courante 258-250. Charges financières 6 900, charges exceptionnelles 2 000, dotations aux provisions et amortissements 3 000, total des charges de fonctionnement 5 941 448. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Section de fonctionnement recettes. Résultat de fonctionnement reporté 2 069 463, atténuation de charges 20 000, opération d'or 37 506. Produits des services 313 500, impôts et taxes 3 218 116, dotations et participations 202 857, autres produits de gestion courante 80 000, produits financiers 6 euros, total des produits de fonctionnement 5 941 448. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. On passe à l'investissement. En recette, section virement à la section de fonctionnement 2 406 340, report 303 217, opération d'or 134 876, notation et fonds divers 155 000, subvention d'investissement 245 000, emprunt 1 million d'euros, total des recettes d'investissement 4 244 433 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Investissement dépenses. Opération d'or 37 506, emprunt et dettes diverses 32 672, immobilisation incorporelle 18 500, subvention d'équipement versée 37 506, immobilisation corporelle 393 669, immobilisation en cours 3 724 579, non affecté 2 300 819 pour un total de 4 244 433. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. C'est fini, merci pour votre attention. Ah là, mais vous tenez, parce qu'il faut que vous tenez, hein, après.
Donc, la composition de la commission affaires sociales et enfants seniors. Donc, suite à la démission de Madame Véronique Jeannin. Donc, cette dernière, comme on l'a dit tout à l'heure, en début de conseil, est remplacée par Madame Lydie Rochette dans ses fonctions de conseillère. La composition donc, des commissions, on la connaît, on l'a votée en juillet 2020. Et donc, pour la commission sociale, affaires sociales, enfants seniors et jeunesse, nous avons donc présent dans cette commission Marie-Hélène Cabas et Madame Rochette qui remplace Madame Véronique Jeannin et les autres membres qui n'ont pas changé. Donc je vous demande de voter l'entrée de Madame Rochette dans la commission Affaires sociales. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Pour la note numéro 6. Madame Rochette, bienvenue parmi nous. Nous avons terminé le conseil. Maintenant, nous allons passer aux questions diverses. Alors, questions diverses, Monsieur Bourrelli, Monsieur Prosperi, Jean-Marie.
Oui, on avait trois questions. Il y en a une qu'on peut éluder assez rapidement. C'est la troisième qui concernait les subventions aux associations. Donc, on nous avait dit qu'il y aurait une réunion prochaine du groupe de travail. Donc voilà, de facto, celle-là tombe puisqu'on vous demandait le calendrier prévisionnel et les modalités. Ok. Donc après, moi j'avais une première question qui concernait les panneaux d'affichage libre et la propagande électorale. J'avais juste une remarque à faire sur la commune. Le fait qu'effectivement on ait regroupé la totalité des bureaux de vote au Dévézou fait qu'on n'a plus qu'un seul panneau officiel en face du Dévézou et que les panneaux officiels qui étaient avant distribués dans la commune, donc à la mairie... aux aiguillères et aux écoles ont disparu. Bon, autant pour les élections présidentielles, il n'y a, à mon avis, pas réellement jeu, puisque les gens sont parfaitement informés de qui se présente et dans quelles conditions. Autant pour des élections qui sont plus locales, ça pourrait peut-être poser, de notre point de vue, quelques problèmes d'information des citoyens. Et donc, j'avais donc deux questions de façon à prévenir des événements qui sont posés par le passé. Donc le premier, la pose d'affiche électorale sur nos panneaux d'affichage libre, puisque c'est comme ça qu'on est obligé de les définir, vu qu'il n'y a pas d'autres panneaux destinés à l'affichage municipal ou à l'affichage associatif. Donc il y a un risque là, effectivement, de devoir se poser des affiches sur ces panneaux-là, et donc un petit peu de désagrément pour les associations et la communication municipale. Et en même temps, on a aussi la possibilité de déployer des panneaux officiels d'information dans d'autres parties de la commune. On n'est pas obligé de les mettre uniquement au niveau des bureaux de vote. Donc nous, on sollicite très bien qu'on retrouve des panneaux d'affichage officiels concernant les élections devant l'école, puisque c'était l'habitude, et aux aiguillères, ce qui permettrait au moins aux gens d'avoir l'information de qui se présente dans quelles conditions, avec un panneau spécifique stipulant bien que le bureau de vote n'est pas maintenu ici, mais qu'il est au début. Ce qui informerait les citoyens, en gros, que le vote se fera au Dévézou sur cette partie de la propagande officielle. Et après, moi, je vous interroge sur l'évolution, puisqu'on avait échangé par mail à ce sujet sur les panneaux d'affichage libre dans la commune. Est-ce qu'il est prévu quelque chose? Alors, je pense que pour les élections législatives, ça va être un peu court. Mais est-ce que ce dossier pourra être traité, et notamment la pose de panneaux d'affichage libre sur la commune qui permettrait d'éviter de mélanger ce qui est de l'affichage associatif ou municipal et de l'affichage libre qui doit être ouvert. Aujourd'hui, ces panneaux, on y trouve de tout, hein, sur les panneaux d'affichage qu'on a dans la commune.
Donc, suite à votre demande, je me suis un petit peu interrogée avec l'équipe d'adjoints, et on va vous proposer pour les élections législatives, il nous reste des panneaux au service technique, sur lesquels il n'est pas marqué affichage libre, mais il nous reste des panneaux. On vous propose de mettre un aux écoles, deux aux écoles, deux à la pétanque, équivalent de l'ancien bureau de vote, et on se proposait d'en mettre deux aussi au niveau du foot et tennis, pour pouvoir faire trois endroits bien distincts dans le village, pour pouvoir faire de l'affichage concernant les législatives. Ensuite, une fois que les législatives seront finies, on les enlèvera et on commandera de véritables panneaux d'affichage libre, nous pourrons dispatcher dans la commune. On fera.
Ok, donc pour qu'il n'y ait pas de confusion avec l'affichage officiel, il faudra bien stipuler en haut
affichage libre.
Que c'est un panneau d'affichage libre, qu'il n'y ait pas de confusion, et parce qu'il pourra y avoir effectivement des collages, les affiches les unes sur les autres, mais c'est autorisé dans le cas de l'affichage libre. Mais par contre, vous ne prévoyez pas un affichage de la propagande officielle ailleurs que devant le DVZ ? Parce que ça, c'est possible, hein, on a le droit de le faire. Dans une commune comme la nôtre, on peut mettre jusqu'à 5 points différents.
Je voulais apporter un complément, effectivement, c'était une remarque que je voulais faire, parce que plusieurs personnes m'ont dit, bon, on n'a vu aucun panneau d'affichage, c'est vrai qu'il faut venir ici devant la maison, et beaucoup de personnes avaient l'habitude de les voir autour du village, les éleuillères, etc., les écoles. Et bon, je me suis renseigné, et en fait, je lis, comme le précise la circulaire du 16 janvier 2020 sur le déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, ces panneaux sont installés à côté de chaque lieu de vote. Si ce lieu est constitué de plusieurs bureaux de vote, il n'est pas nécessaire d'installer plusieurs séries d'emplacements. Toutefois, les mairies peuvent aussi prévoir d'installer d'autres emplacements par ailleurs. Le nombre maximum de ces emplacements est fixé en fonction du nombre d'électeurs des communes. 10 emplacements dans les communes ayant entre 501 et 5000 électeurs, ce qui est notre cas. Donc, on peut, je pense que, effectivement, ça permettrait d'avoir une information beaucoup plus normale.
On va commencer par les panneaux d'affichage libres, qui vont permettre déjà d'être actifs tout de suite aux élections législatives. Ouais. Et puis après, on réfléchira à faire évoluer le système.
On le mettra même deux au bureau de poste.
Là, c'est un petit peu. Il faut pas mélanger l'affichage officiel et l'affichage libre. Donc il faut en tout cas, s'ils sont posés pas très loin du DVZO, il faut absolument qu'ils soient distincts et nominalement clairement explicités. Mais dans ce cas-là, moi je vous propose aussi de rajouter sur les panneaux qui existent aujourd'hui un affichage complémentaire stipulant qu'il existe des panneaux d'affichage libre et que les panneaux qui sont en place sont dans ce cas-là réservés à l'affichage municipal et l'affichage associatif. Ça évitera des confusions, quoi. C'est bon sur ce point-là. Est-ce que moi j'avais un autre point qui concernait la demande de la municipalité qui est parue donc entre l'Aisne et l'Hironde et puis aussi sur le Facebook, sur lequel vous demandez à un certain nombre de citoyens de Montferrier de s'inscrire sur une liste additive de bénévoles pour pallier les absences des personnels municipaux, notamment autour de la cantine. Alors. Cette position-là nous interroge et nous interpelle. Autant on comprend tout à fait la nécessité de recourir ponctuellement dans certaines situations à un soutien des adjoints ou d'autres personnels municipaux qui ne sont pas dédiés aux cantines pour remplacer les absences, comme ça a été récemment le cas dans le Covid. Autant... nous trouvons bizarre et curieux d'instituer ça comme quelque chose de stabilisé. C'est-à-dire que là, vous recensez les personnels, enfin vous recensez les citoyens de Montferrier pour pouvoir remplacer du personnel qui est malade de façon assez systématique, puisqu'on constitue un fichier et on fait appel à ce remplacement. Ça interpelle pour plusieurs aspects. Ça nous interpelle pour plusieurs aspects. Il y a pour nous un premier problème de sécurité. Il y a derrière ces tâches-là un certain nombre de risques potentiels. Donc, pour un certain nombre d'activités, il faut effectivement du personnel formé. Donc, le citoyen qui remplace les agents municipaux n'a peut-être pas la formation nécessaire. Et en tout cas, ça ne nous semble pas être un bon message qu'on fait passer au personnel municipal en leur disant qu'ils peuvent être remplacés au pied levé par n'importe quelle personne qui accepterait de faire cette activité-là. Donc ça, c'est un premier point. Il nous semble qu'il existe d'autres possibilités pour remplacer du personnel, et notamment l'intérim, des choses de cette nature. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur les possibilités d'avoir du personnel de cette nature? Est-ce qu'on peut passer des contrats? Ça existe, avec certaines entreprises qui permettent de pallier ponctuellement, sur des temps courts, des absences de personnel.
Je vais laisser Steve Chrétien répondre.
Peut-être pourrions-nous intervenir d'abord, parce qu'on avait posé la même question. On l'a découverte lorsque vous l'avez envoyée. Je la lis, puisque la publication sur le site web de la mairie appelle à bénévoles temps de cantine. La municipalité recherche des bénévoles volontaires pour le temps périscolaire du midi auprès des élèves, déjeunant à la cantine, est-il écrit. Cet appel pose question, tant sur le fond que sur la forme, et a créé beaucoup de remous et d'inquiétudes chez les parents d'élèves. Il est en tout premier lieu dénigrant pour le personnel municipal, en charge de ses temps avec les enfants, d'imaginer pouvoir être remplacé par des bénévoles sans expérience du contact des enfants. Ensuite, qu'en est-il de la sécurité de nos petits laissés à des gens non formés? Au-delà de cette proposition, se pose la question du bien-être du personnel communal. Pourquoi tant d'absence? Que se passe-t-il? Pouvez-vous nous expliquer cette situation? Nous notons des faits qui sont inquiétants, absence de paiement d'heures supplémentaires, demande de travaux hors des horaires habituels, désignation des mêmes agents en cas de situation d'urgence. Merci.
Je vais répondre effectivement. Alors que se passe-t-il au sein du personnel communal au niveau de la cantine? Nous sommes tout simplement, comme vous avez pu le remarquer depuis 2 ans, dans une pandémie mondiale de Covid qui impacte fortement le personnel et pas forcément qu'au niveau de la cantine, et pas qu'au niveau de la mairie de Montferrier. J'ai encore appris ce soir qu'une ADSEM était positive au Covid. J'en ai une autre qui a été déclarée positive mardi. Donc ces personnels-là sont invités à rester pour ne pas contaminer les enfants et les enseignants, ce qui implique forcément des absences. Sur le fait de faire appel à des volontaires, on a regardé ce qui se faisait dans d'autres communes et on a vu cette possibilité. Alors je vous rassure, on constitue un fichier, mais c'est pour faire du remplacement ponctuel. Le but n'est pas de substituer les agents municipaux par des citoyens montferriens, absolument pas. Par ailleurs, j'ose espérer que vous pensez que nous sommes assez intelligents pour avoir réfléchi la chose. Ces personnes qui seraient sollicitées seront sous contrat avec la mairie, collaborateurs de services publics, donc seront couvertes par les assurances de la mairie. Une vérification de leur casier judiciaire sera faite, puisqu'elles seront au contact des enfants, comme c'est le cas pour tous les agents municipaux. Et elles interviendront si on a des inscriptions, puisqu'on a lancé un appel, attendons de voir si les gens répondent. Je vais répondre juste sur un dernier point aussi. Vous trouvez ça dénigrant pour le personnel? Je vous invite vraiment à aller discuter avec le personnel, voir si c'est dénigrant pour eux de leur donner des gens en plus pour pouvoir passer un service correctement. Si vous voulez, le but de faire appel à ces bénévoles, et comme c'est souvent le cas quand ce sont les élus qui s'en chargent, ce n'est pas forcément d'aller faire manger des enfants, c'est de faire de la surveillance de cours. Donc en termes de formation, je ne veux pas dire qu'il n'y a presque pas de formation à avoir, mais pour surveiller des enfants dans une cour, ça me paraît, mettre des manteaux, laver les mains des enfants, je n'ai pas le sentiment en tout cas que nos enfants sont en danger si nous demandons à des citoyens montferriens, et en plus nous visions un public de grands-parents initialement, l'idée était aussi de pouvoir créer du lien intergénérationnel. L'idée nous semblait bonne. On a vu que ça se faisait dans notre commune, on a trouvé que c'était une bonne idée. Sur l'intérim, par contre, Jean-Marie, nous ne nous sommes pas renseignés, je suis totalement transparent avec toi. Des offres ont été publiées, nous avons eu des candidatures qui n'étaient pas satisfaisantes, que nous n'avons pas retenues, quelques candidatures, le peu que nous avons eu. La difficulté, encore une fois, c'est d'avoir à chaque fois des personnes qui peuvent se rendre disponibles sur 2 heures de temps par jour, sur 4 jours. Donc même pour des personnes qui pourraient être à la recherche d'un emploi, c'est 8 heures par semaine.
Oui, je suis d'accord, mais c'est justement là où l'intérim peut remplacer et peut couvrir en temps réel un certain nombre de défauts de cette nature. C'est-à-dire que C'est la société d'intérim qui assure la continuité de l'activité sur le mois pour la personne.
Je suis pas sûr que dans cette activité, ça existe vraiment dans cette activité.
Alors, ça existe dans toutes les activités sociales. Après, je ne dis pas qu'on trouvera facilement. Hein,
oui, mais... C'est pour ça que des grands-parents dans le village qui viennent très ponctuellement. Ils espèrent tous que la COVID va rentrer dans l'ordre et qu'on aura plus ce taux d'absentéisme qui est extraordinaire. Ce qui fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux demander à des grands-parents de venir aider parce que c'est eux qu'on va bien solliciter plutôt que de fermer la cantine et d'obliger les parents à garder les enfants chez eux ?
On avait cette problématique-là. On s'est dit, bon, ben, on va maintenir la cantine, mais on va demander ponctuellement, parce que, ben, encore une fois, comme le dit M. Chrétien, ce soir, on a une Covid plus. Donc, c'est fini. Demain, on a un problème. Donc, on se disait, ben, des parents, des grands-parents qui viennent accompagner les enfants, accompagner l'ATSEM qui est libre et qui l'aide uniquement pour mettre le manteau, laver les mains, faire le petit train jusqu'à la cantine, et là, pris en charge au sein de la cantine par l'équipe cantine, je me dis que ça permettait de maintenir le service.
Non, mais autant on comprend bien. Autant on comprend bien, et c'est pour ça qu'on n'était pas intervenu tout de suite quand vous avez envoyé votre message relatif à la mobilisation des élus. Parce que ponctuellement, il y avait un problème. Effectivement, il y a la situation Covid. Nous, ce qui nous interpelle, c'est la possibilité de voir cette possibilité s'étendre de façon récurrente, se pérenniser. Et alors qu'il y a sans doute d'autres choses à réfléchir pour pouvoir assurer l'ensemble des services communaux. Voilà, c'est le seul message qu'on souhaitait passer autour de cette...
Il n'y a pas de crainte à avoir, parce que là, c'est la multiplication sur une même période des arrêts maladie dus à la COVID qui explique que cette...
Tant mieux.
On la
connaît depuis la COVID. Ok. Non, mais... Non, effectivement, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on s'est étonné de ça. Vous avez juste stipulé un autre point qu'ils étaient en contrat avec la mairie. Hein. Ça veut dire que c'est une intervention rémunérée ou pas ?
Non, c'est de manière bénévole, mais nous avons l'obligation de profiter.
Pour les aspects d'assurance, oui.
Exactement.
D'accord.
Deux questions. Bon, sur le marché de Noël, on avait une question. Nous avons appris par Mme Rouquayrol, mail du 11 mars, qu'un marché de Noël se tiendrait le samedi 17 décembre place des Grèzes, et le lendemain aura lieu un autre marché de Noël organisé par la Seine. Question. Deux marchés de Noël à Montferrier, c'est bien nécessaire. Est-ce que cela ne fait pas doublon? Et surtout, en aviez-vous discuté préalablement avec la CN? Deux marchés de Noël à Montferrier, là. Bon. Une coordination des différentes animations de fin d'année sur le village est-elle envisageable? Ce marché du samedi 17 décembre va annuler, déplacer, mais j'ai vu qu'apparemment le marché hebdomadaire serait prévu et continuerait, ce que vous avez dit dans le mail d'aujourd'hui, enfin, ou hier. D'autre part, pour ce marché Place des Grèzes avec les constructions, quel sera le coût, hein, c'est tout ça un coût, hein, ces petits chalets en bois démontable. Personnellement, je vous le dis, je trouve ça affreux, mais enfin bon, c'est à la mode, paraît-il, on le voit sur la place de l'Esplanade à Montpellier. Qui sera invité, maraîcher permanent, boutique de Noël, marchand de cadeaux, etc. Nous souhaiterions que les locaux soient prioritaires en plus de clarté sur cette opération. Merci.
Le marché de Noël a été discuté en commission culture. Avez-vous été présent à la dernière commission culture, M. Porte ?
Non, je n'ai pas.
Voilà.
Non, je ne peux pas assister à toutes les commissions et groupes de travail dans lesquels je suis aujourd'hui et qui se développent encore de plus en plus. Je dois être un de ceux peut-être qui assistent parmi les conseillers municipaux, adjoints et délégués, au plus de réunions.
Donc là, je crois que vous avez été absent à de nombreuses réunions.
Mais toi, tu es délégué, mon cher.
Cinq réunions culture, vous n'avez pas été présent. Donc c'est vrai que vous perdez le fil du coup de l'organisation de ce qui se passe au sein de la commune.
Ça ne m'empêche pas de poser des questions.
Oui, mais bon, si vous aviez été présent aux commissions culture, vous auriez eu la réponse. Bien, alors je vais vous la donner quand même, la réponse de marché à Montferrier. Mais c'est deux marchés de Noël complètement différents. C'est un marché de Noël organisé par la mairie et un marché de Noël associatif. Vous pensez que nous n'avons pas pris contact à tâche auprès de M. Vioux, président de l'ACL, pour travailler ça ensemble suite au marché de l'ACL qui n'a pas été très réussi en 2021. J'ai pris attache auprès de M. Vioux.
Il y avait le Covid aussi en 2021. Il est pour les écoles, mais il est aussi pour le marché.
Le résultat était là. Donc, j'ai pris attache auprès de M. Vioux et nous avons décidé d'un commun accord d'essayer de faire un week-end festif à la fin de l'année, le week-end du 17-18 décembre. Et il est tout à fait partant sur le dimanche, le marché associatif, le samedi, le marché de Noël de la commune. Donc nous pensions, Monsieur Bord, excusez-nous, que c'était une excellente idée que de mutualiser ces deux marchés et de faire deux marchés complètement différents qui feraient un week-end festif de fin d'année au niveau des fêtes de Noël. Je
n'ai pas eu les mêmes échos que vous.
Bah, excusez-moi, moi je suis.
Seulement, je pense aussi que le marché de Noël, le marché de Noël qui aura lieu le 18 décembre est un peu tard pour un marché de Noël où les gens vendent parce que tout le monde a acheté. Il y a plein de marchés de Noël dans toutes les communes.
Ok, donc vous êtes contre la date, mais vous n'êtes pas contre l'organisation du week-end, un marché de Noël festif et un marché de Noël associatif.
J'étais d'accord avec le marché de Noël.
Après, le choix
organisé
de la date,
par l'ACL fin novembre.
Monsieur Bord, le choix de la date pour le marché de l'ACL a été un choix qu'a proposé Monsieur Vieux. Il ne voulait plus le faire le 28 novembre parce qu'il y a le Black Friday qui, d'après lui, aurait impacté le marché associatif de l'année dernière. Il ne voulait pas le faire le 21 novembre parce que c'était beaucoup trop tôt. Et ensuite, les autres week-ends de décembre, tout le Déveso était pris par le goûter des aînés, par différents événements. Donc on est arrivé au week-end du 17 décembre et nous avons décidé d'un commun accord de faire les deux marchés. Donc voilà l'explication des deux marchés de Noël ce week-end-là. Sachant que pour les petits chalets, nous sommes en train de chercher des devis et de voir un petit peu combien ça pourrait nous coûter, et peut-être même le faire par notre service technique, donc le coût sera relativement léger. Voilà. Et je suis désolée que les petits chalets ne vous plaisent pas. Et ensuite, à ce marché de Noël, tous nos commerçants y participeront, et ils seront présents le matin sur le marché hebdomadaire, et l'après-midi sur ce marché de Noël, et tout le monde participera, et on essaiera de faire quelque chose d'un petit peu plus étoffé, on fera un Père Noël, une calèche, un manège, enfin bon, on va essayer d'amener un petit peu d'animation de Noël sur cette fin d'année.
Ce que vous avez dit existait avant, au marché de Noël, organisé par la CN.
Au niveau du marché associatif, tout à fait.
Oui, oui, il existait, sauf en 2021.
Votre question.
Dernière question, chers collègues. Devant le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, l'ESH, le 28 septembre 2021 à Bordeaux, le Premier ministre a annoncé les suites qu'il entend donner au rapport Rebsamen sur la relance de la construction de logements, à savoir notamment la compensation intégrale par l'État au profit des collectivités, des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicables au logement social pour les logements agréés à partir de 2021 et jusqu'à la mi-2026. Soit la fin des actuels mandats municipaux. Un mécanisme est aussi prévu pour le logement intermédiaire, également en vue des contrats de relance du logement, les préfets, collectivités, un meilleur ciblage des aides à la pierre, une réforme de dispositifs loués abordables. S'il n'est pas coutume de reprendre la parole après une intervention du Premier ministre, l'USH a publié un communiqué après son intervention. Elle y salue la décision de compensation intégrale de la TFPB, qui constitue une étape importante de la remobilisation des collectivités locales au service du logement pour tous. Pour Emmanuel Cosse, secrétaire président de l'USH et ancienne ministre du Logement d'ailleurs, la visite du Premier ministre au congrès HLM est d'abord un signe de reconnaissance pour le secteur du logement social après plusieurs années de mise en cause. Je salue la prise de de conscience au plus haut niveau de l'État de notre préoccupation face à la crise du logement. Les annonces faites par le Premier ministre dans son discours, partant des constats de travaux de la Commission présidée par François Rebsamen et auxquels l'Union sociale pour l'habitat a activement contribué, vont dans le bon sens. Donc ma question, c'est pour Montferrier, donc, qu'en pensez-vous, puisque vous êtes au courant de ces mesures, et où en êtes-vous des projets de logements sociaux? Merci.
Bon, je vais essayer de répondre brièvement et expliciter cette vraiment très très bonne question. Alors effectivement, Jean Castex et Emmanuel Wagron ont chargé François Rebsamen, qui est, me semble, le maire de Dijon, en 2021, de trouver des pistes de relance de la construction de logements. Cette commission a fait des préconisations en deux rapports, je ne vais pas les lire. Par contre, cela a été suivi par un amendement au projet de la loi de finances 2022, dont vous l'avez dit, je le dis. L'État compensera pendant 10 ans l'exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux ayant eu un agrément entre janvier 2021 et 2026. Cette mesure, bien sûr, devrait inciter les maires qui hésitaient à faire du logement social, compte tenu des incidences que cela pourrait induire en termes d'investissement, crèches, investissements non financés par la taxe foncière, puisque les logements sociaux, vous le savez, en sont exonérés pendant 15 ans. Par contre, M. Bord, je pense qu'il n'est pas difficile de comprendre que même ce dispositif, s'il est intéressant, ce n'est pas du tout le sujet à Montferrier, où le frein de la construction de logements sociaux est essentiellement dû à l'absence de foncier disponible. Petite remarque en plus, la Commission comme l'AMF ont proposé de supprimer l'exonération sur tous les logements neufs. Cela aurait été un bonus financier pour les communes et cela n'a pas été retenu par le gouvernement. Je laisse à Brigitte la suite.
Pour les logements sociaux qui sont été prévus plutôt sur la commune. Donc aujourd'hui, il nous reste un seul dossier, comme vous le savez très bien, c'est le dossier de la distillerie. Et le dossier de la distillerie, pour l'instant, est en stand-by à la métropole. À la métropole. C'est-à-dire que pour l'instant, la métropole ne fait pas redescendre le côté positif de la distillerie. Nous avons eu une évaluation environnementale qui a été faite sur ce dossier, comme ça a été fait il y a 5 ans au niveau de la distillerie. Dans cette évaluation environnementale, il est demandé certaines choses qui sont complètement anachroniques et qui posent problème. Donc aujourd'hui, la métropole ne se positionne pas sur le fait de dire oui et de valider l'évaluation telle qu'elle est aujourd'hui, ou de dire non en nous disant cette évaluation, il faut l'appliquer mot à mot. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner de réponse. Tout le monde est agité avec cette histoire, mais la métropole ne donnant pas ni son feu vert ni son feu rouge, nous sommes complètement bloqués. Et pour tout vous dire, le promoteur commence un petit peu à en avoir assez, parce que ça fait quand même 5 ans que ça dure, et qu'aujourd'hui, on sort une évaluation environnementale qui est compliquée. On nous parle d'un PPRI violé au niveau du LES. Donc là, ça pose quand même un problème. On nous parle des EMBF 50 mètres à partir du lit du LES. On nous demande à combien on se tient de ces 50 mètres. Il n'est écrit nulle part qu'il faut avoir 50 mètres de MBF plus 10, 20, 30 mètres après ces 50 mètres. C'est écrit nulle part. Donc personne ne comprend rien à cette évaluation. Donc aujourd'hui, le projet est bloqué. Nous attendons une réponse de la métropole. Tant que la métropole ne répond pas, n'avance pas. Donc c'est pour ça qu'au niveau logements sociaux, en septembre 2022, j'aurai droit au rendez-vous chez M. le préfet. Et il va falloir que je lui explique que à Montferrier, nous devions faire 96 logements sociaux sur le plan triennuel et que nous en fournirons zéro. Et là, il va falloir le convaincre de ne pas nous carencer, c'est-à-dire de continuer à nous donner notre pénalité sans nous carencer, pour rester à 110 000 euros, ce qu'a prévu M. Capot. Donc ça va être très très compliqué, parce que on va me dire, en 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, monsieur le préfet. Mais rien, pourquoi? Parce que la métropole, pour l'instant, enfin, la métropole ne nous laisse pas avancer. Donc, on est bloqué.
Oui, effectivement, ça augure pas de...
Oui, de bon jour
pour, vis-à-vis de cette réunion avec le préfet. On verra. Peut-être qu'il y avait... Alors, c'est sans doute un peu court d'ici fin 2022, mais peut-être on aurait pu avoir quelques arguments complémentaires auprès du préfet si on avait pu quand même lancer des petites opérations. Je reviens sur le message qu'on vous a fait passer à plusieurs reprises. C'est important, les grosses opérations logement social, on les a ciblées, mais elles peuvent être entachées d'un certain nombre de ralentissements, et puis quand elles n'existent pas, on n'a rien à mettre en face. Par contre, il nous semble que sur la commune, il y a quand même capacité à faire du logement social sur des petites opérations.
Mais on en a quand on a des projets, par exemple, comme le Clos Olivia, boulevard de la Lironde. Ben là, on a 4 logements sociaux, mais encore une fois, ce projet, pour l'instant, il est bloqué. N'avance pas.
Oui, je suis d'accord.
Donc, tu vois, on sait qu'on a des possibilités de logements sociaux.
Voilà.
On en a plusieurs.
Je pense que ça peut faire partie des arguments qu'on peut défendre.
C'est ce que je vais dire.
C'est notamment la.
On est loin des 96.
La volonté qu'on peut afficher de faire des petits blocs.
C'est ça. On est loin des 96.
Oui, je suis d'accord. Oui.
Et dans le prochain plan triennuel, on nous demande 120 logements sociaux, en plus des 96 qu'on n'a pas fait.
Mais c'est normal, puisque on devrait en avoir 450.
Il nous en manque 385 aujourd'hui.
On est d'accord. Et ce n'est pas l'urbanisation actuelle de Montferrier qui va diminuer les chiffres.
On ne pourra jamais les faire.
Là-dessus, on rejoint, ce n'est pas une opération qui peut être résolue sur un mandat, ni même sur 2 ou 3 mandats, c'est évident. On ne va pas revenir sur l'histoire, elle est ce qu'elle est. On avait, nous, effectivement, depuis longtemps, mobilisé la commune sur ce dossier. Le fait est, c'est qu'il faut absolument éviter la phase de carence, et donc l'augmentation substantielle de cette amende SRU, qui pourrait se traduire, pour la commune, par des contraintes extrêmement fortes sur ses capacités d'investissement. Voilà, donc... il faut essayer de faire preuve de bonne volonté au maximum de ce qu'on peut.
En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que comptez sur moi, je défendrai la commune bec et ongles devant le préfet, et j'essaierai d'être le plus convaincant possible. Après, ça sera lui le décisionnaire. Voilà.
Mais si on n'a aucun, même si on défend bec et ongles, par principe, je ne peux pas faire autrement que...
Mais quand je me suis présentée la première fois en septembre 2020, puisque j'ai été élue en juillet, en septembre, je suis allée devant le préfet pour assumer un manque de logements sociaux crucial qui n'était pas de mon fait. J'ai été, je pense, assez convaincante, puisque nous n'avons jamais été carencés. Donc c'est bien, on a eu 3 ans où on n'aura qu'une pénalité. Certes, c'est une pénalité, mais bon, on n'aura qu'une pénalité. Donc là, je vais essayer d'être à nouveau très convaincante la prochaine fois pour essayer d'éviter la carence et de lui promettre monts et merveilles pour le triannuel. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, le conseil est levé. Bonne fin de soirée.